Je vais commencer, je continue les prophéties dans la foulée de ce que je vous ai dit, et je vais regarder, commencer à regarder avec vous quelque chose d'extrêmement important, les rapports entre l'écrit et l'oral. Grand problème justement de la prophétie biblique, puisque les prophètes bibliques nous sont attestés par des œuvres écrites et non plus par des œuvres orales. Heureusement pour nous, sinon on ne les connaîtrait pas. Alors, la semaine dernière, j'avais commencé à vous mettre en place un petit peu la prophétie. Vous m'entendez là maintenant, n'est-ce pas ? J'avais commencé à mettre un petit peu en place la question des prophéties en vous montrant l'union intime qu'il y a entre la divination et la prophétie. Bon, ça, c'est un acquis. Maintenant, je vais commencer à regarder les prophéties par elles-mêmes et puis on reviendra sur cette question de rapport avec la divination plus tard. Pour l'instant, je vais commencer à regarder les prophéties par elles-mêmes. Et j'avais intitulé ma leçon la semaine dernière comme « Par la défiance envers les prophéties », je vous avais montré que ça ne suffisait pas qu'un prophète vienne parler pour qu'on l'écoute. Et on avait regardé ça justement dans les régions où la divination est reine, c'est-à-dire du côté de l'Est, et où les prophètes viennent s'égosiller à la porte du palais ou bien sur la place publique, on les écoute aimablement, et on ne leur répond rien. Et ça, ça veut dire qu'on ne tient pas compte de ce qu'ils disent. Et j'étais arrivé à un moment donné aux prophéties de Kittitum qui viennent de Eshnouna. Eshnouna, c'est dans la région d'Akkad. Bon, c'est la partie est d'Akkad, comme Babylone, et la partie ouest. Alors, la semaine dernière, d'après les questions qui m'ont été posées à la fin du cours, semble-t-il, certains d'entre vous n'avaient pas très bien compris, à Mari, il y a deux traditions royales. Il y a la tradition bédouine, qui est celle de Yardoulim et des Imrilim, dans laquelle la prophétie a un certain rôle. Et puis, vous savez qu'il y a un intermède entre Yardoulim et Zimrilim. Alors, je pensais avoir été clair, mais semble-t-il, je ne l'ai pas été. Les gens qui exercent le pouvoir à l'époque de Samsiadou et de Yasmaradou sont des Akkadiens. Et c'est pour ça que quand ils arrivent à Mari, on se trouve bien à Mari, mais avec une attitude akkadienne de défiance envers la prophétie. Et ça, c'est un intermède avec l'absence des prophètes, l'absence des bétiles, l'absence des rêves, etc. Et alors, si ça vous étonne, je vous rappelle simplement le grand principe qu'il y avait à un moment donné en Europe, qui était que la région a la religion de son roi, hein, cuius reio eius religio. Bon, ça c'est une chose qui est bien connue par ailleurs. Donc il faut simplement, Mari étant dirigée par des personnes de religiosité différente, nous donne une documentation différente. Mais en elle-même, cette absence est tout à fait signifiante. Alors, lorsque l'on regarde les prophéties de Kittitum et Eshnouna, on a la surprise de trouver des prophéties dans un domaine akkadien. Mais ça, je vous avais dit, à Mari même, lorsqu'il y a des Akkadiens au pouvoir, on est sûr que les gens n'attachent pas d'importance aux prophéties, mais qu'il y a des prophéties quand même. Et le résultat est absolument patent, puisque Dominique Charpin avait pu éditer deux textes de l'époque certainement éponymale, c'est-à-dire l'époque de Samsiadou, qui montrait que les prophéties continuaient à exister, et on avait ces deux textes fragmentaires dont on ne fait pas grand-chose, mais qui attestent au moins l'existence des prophéties. Alors, qu'il y ait des prophéties à Eshnouna, c'est pas du tout étonnant. C'est pas du tout étonnant. Le problème est de savoir quel intérêt on y portait. Alors, ces prophéties, elles sont au nombre de deux. La première, on n'en parlera pas parce que c'est un texte qui est dans un état de délabrement tel qu'on n'y comprend rien. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer de le reconstruire. Ce sont des textes qui sont tellement atypiques que quand ils sont complètement conservés, on a de grands problèmes pour les comprendre. Donc, si le texte est fragmentaire, il vaut mieux ne pas essayer d'arriver à lui imposer un sens. On pourrait avoir des surprises. Bon. Donc, je ne prends que le second, que j'avais lu rapidement avec vous, que je recommence maintenant aujourd'hui à considérer. Et il se caractérise par le fait qu'il est d'une traduction absolument impossible, parce qu'il y a deux niveaux de compréhension. Et comme nous ne connaissons pas la situation historique de ce texte, vous pouvez choisir l'une ou l'autre. Et à mon avis, il doit y avoir certainement une indécision déjà dans la compréhension. Tout le problème est de savoir si les contemporains de Ibalpiel, roi d'Eshnouna, n'avaient qu'une lecture ou deux lectures. Et ça, je ne peux pas vous le dire. Alors, ça commence tout de suite par le roi. La première ligne, c'est le roi Ibalpiel, comme ça, donc classant le texte comme appartenant à l'époque d'Ibalpiel. Vous verrez l'importance de cette remarque tout à l'heure. Ou bien vous pouvez le considérer comme un vocatif. « Ô roi Ibalpiel », la langue, surtout écrite, ne vous permet pas de distinguer l'un par rapport à l'autre. La seconde ligne est très claire. Voici ce que dit Kititoum. Kititoum est la grande déesse d'Eshnouna et de Nereptoum, d'où vient ce texte. Et c'est une divinité qui est une divinité majeure du royaume d'Eshnouna, qui a des rapports tout à fait privilégiés avec c'est l'Eshtar local, elle a des rapports tout à fait privilégiés avec les rois d'Eshnouna. Et ensuite, le texte devient complètement amphibologique. Les trésors des dieux, chaque fois qu'il y a un choix, je vous l'ai mis en italique. Les trésors des dieux sont placés devant moi, ou bien les secrets des dieux sont à ma portée. Vous pouvez traduire l'un ou l'autre. Et les gens qui ont repris ces textes ont fait des choix. Et à mon avis, si vous faites des choix, vous tronquez le texte. Les trésors des dieux sont placés devant moi, ou bien les secrets sont à ma portée. Vu que tu proclames mon nom, ou bien vu que des ex-voto me sont sans cesse voués par toi, soit tu reconnais ma prééminence, soit tu multiplies les offrandes à mon égard, eh bien, j'ouvrirai pour toi les trésors des dieux, ou bien je révélerai pour toi les secrets des dieux. Voilà. Là encore, vous avez un choix. Ensuite, sur la vie des dieux, sur le jugement du dieu Hanoum, c'est-à-dire le roi, le père et le roi des dieux, le plus grand, le pays se trouve être donné pour que tu en sois le maître. Et le texte continue en disant: tu dénoueras la semelle du pays d'Amon et d'Aval, ou bien tu déferas l'emprise du pays d'Amon et d'Aval. Le texte est extrêmement difficile à comprendre. Le trésor du pays d'Amon et d'Aval, tu en useras à ta guise. Bon, tu en useras à ta guise est un gain de traduction. L'expression n'avait pas été comprise au moment de l'édition, mais maintenant elle est très claire. Ce que tu as reçu ne sera pas amoindri, ou bien ton prix ne sera pas amoindri. Tout territoire que ta main aura pris pour toi sera d'une possession tranquille. Les fondements de ton trône, moi qui Kititoum, je les rendrai forts. Ça, c'est une façon banale de parler à l'époque. Je viens d'installer pour toi un ange gardien protecteur. Puisse ton attention être tournée vers moi. Alors, il est très gênant que nous ne sachions pas la date de ce texte. Il n'y a aucune indication de date de ce texte. Je vous avais montré, c'est une toute petite tablette qui ne porte absolument aucune mention de nom d'année ou de mois ou de référence quelconque. Vous voyez comment ça se présente. La déesse demande qu'elle soit celle auquel le roi adressera son attention. Puisse ton attention, c'est-à-dire ton oreille, dit le texte, être tournée vers moi. Vous avez deux interprétations possibles de ce texte. La première, qui a été dite, c'est que c'est un texte en quelque sorte messianique. C'est-à-dire que le texte a été fait lorsque le roi Ibalpiel est monté sur le trône. Et à ce moment-là, la déesse lui promet un règne prospère, elle lui promet la gloire, elle lui promet la stabilité, et en échange de cela, eh bien, elle demande d'être la déesse privilégiée. Kititoum est la déesse privilégiée de toute façon d'Eshnouna, c'est quelque chose qui marche très bien. Ça serait en quelque sorte l'accueil du roi, du nouveau roi, sur son trône. Bon, c'est une interprétation de bénédiction par la divinité du nouveau roi, c'est quelque chose qui est raisonnable. Je vous dirai que pour l'époque, je n'en connais pas d'autres exemples. Les seuls exemples nets que l'on ait de dévolution de la royauté à un nouveau roi par une divinité et la promesse de fidélité de la divinité et de la prospérité qui s'en suivra, c'est quelque chose qui n'est connu que pour le premier millénaire lorsque Esarhaddon est monté sur le trône. Et ça, on le verra l'année prochaine lorsque je verrai le premier millénaire avec vous, si vous en avez la patience. Esarhaddon, tout le monde sait qu'il est monté sur le trône à une époque extraordinairement troublée. C'est quelqu'un qui n'aurait pas dû devenir roi. Il est devenu roi, quoique le plus jeune de tous ses frères, quoique il y ait eu une grande rébellion, et il a conquis le pouvoir. Alors, là, on comprend très bien pourquoi les prophètes se sont mis à ce moment-là, surtout depuis Eshtar d'Arbel, à lui promettre la félicité et la légitimité, parce qu'il n'était sûr ni de l'un ni de l'autre quand il est devenu roi. Et c'est quelque chose qui a été vraiment un exercice de très grand péril pour lui. Bon. Lorsqu'Ibalpiel II prend le trône à la suite de son père Dadoucha, on n'a pas du tout l'impression que la royauté ait été menacée à Eshnouna. Et il faudrait admettre que l'interprétation de cette bénédiction du nouveau roi par la déesse principale est quelque chose qui vient s'ajouter au sacre du roi, n'est-ce pas ? Et vous verrez dans la suite de cet exposé que les prophéties au deuxième millénaire arrivent toutes dans un contexte de crise. Et le grand argument que je peux avoir contre cette interprétation de la bénédiction au moment du sacre d'Ibalpiel par la grande déesse d'Eshnouna vient du fait que rien ne nous dit que la succession de Dadoucha ait posé un problème quelconque. C'est un moment où le royaume est au sommet de sa gloire, vient de conquérir toute la partie du nord qui lui était rebelle. Manifestement, Eshnouna est la première royauté au monde à ce moment-là, et pourquoi y aurait-il eu cette prophétie ? On ne le comprend pas très bien. Alors, lorsque vous regardez un texte comme « Le trésor du pays d'Amon et d'Aval, tu en useras à ta guise », le pays d'Amon et d'Aval, ça veut dire, comme Eshnouna se trouve sur le fleuve de la Diyala, la partie nord et la partie sud du royaume t'est donnée. Bon, c'est une façon qui est tout à fait possible de comprendre. Mais il y a une autre façon de comprendre le texte en disant que Dadoucha, il a succédé au plus glorieux, peut-être, des rois. Ibalpiel a succédé au plus glorieux des rois d'Eshnouna, mais il a été aussi le dernier des rois d'Eshnouna. Et lorsque Ibalpiel a perdu son trône et sa vie, ça c'est une période de crise considérable que l'on reverra à un autre moment, et on peut très bien comprendre à ce moment-là que le pays d'Amon et le pays d'Aval ont un sens tout à fait différent. Donc il n'est pas du tout impossible que cette prophétie soit non pas une prophétie de début du règne, mais une prophétie de fin du règne. Et c'est ça, c'est là où il y a le grand problème. Et vous verrez que dans la réinterprétation générale des prophéties à l'époque amorite, la seconde est bien plus féconde que la première. Bon, pour l'instant, on laisse cela ouvert. C'est une possibilité. Vous voyez la difficulté historique d'interpréter un texte. Est-ce une bénédiction mécanique du début, ou est-ce que c'est en réalité quelque chose qui arrive à un moment de crise ? Pour l'instant, nous laissons le problème ouvert, on le reverra plus tard. La seule chose sur laquelle il faut réfléchir pour l'instant, c'est ça. Le roi Ibalpiel, ou bien au roi Ibalpiel, voici ce que dit Kititoum. Le roi Ibalpiel, ça serait une phrase indépendante qui arriverait au début en disant « Le texte concerne le roi Ibalpiel ». Il se trouve effectivement que ce texte n'est pas un texte qui a été trouvé dans un palais, mais c'est un texte qui a été trouvé, dans les archives du temple de Nereptum. Et quelqu'un comme Bob Moran a interprété ce texte en disant « Nous avons ici le premier exemple qui existe au Proche-Orient de prophétie archivée dans un temple. » C'est-à-dire que quelqu'un a décidé de commencer à constituer d'une façon archivale les prophéties qui pouvaient arriver à un roi. Alors ça, c'est quelque chose qui est très bien connu au premier millénaire pour Estaradon toujours. Et j'ai l'impression que Bob Moran, qui était un immense savant, hein, pour lequel j'ai le plus grand respect, a tiré de l'interprétation courante au premier millénaire la façon de comprendre ce texte du deuxième millénaire. À mon avis, c'est quelque chose qui est un peu trop recherché. Alors, il est évident que on n'attendrait pas ce terme logal ibal piel. Ça, c'est quelque chose qui est absolument inattendu. Et nous nous sommes tous crevés les yeux pour essayer de comprendre en réalité relativement à ibal piel. C'est ça qu'on devrait attendre si c'était, un réel texte d'archive. Et le texte, on a la photo à côté, et c'est extrêmement clair, il n'y a pas écrit Ashu, mais Lugal, c'est-à-dire Sharum ibal piel. Bon. Alors, si c'était vrai, on devrait en avoir d'autres. Mais c'est un texte unique, on ne peut pas très bien le comprendre. Ce qui est le plus important, c'est ça. Umai et Kititum. Ainsi parle Kititum. Ce n'est pas une façon normale de s'exprimer. Ce n'est pas ça qu'on devrait avoir s'il y avait une véritable prophétie. En réalité, Umai Kititum, c'est un début de lettre. C'est un début de lettre. Et le texte, lorsqu'il a été édité pour la première fois, a été compris comme étant une lettre adressée par la déesse Kititum au roi d'Eshnouna. Et je pense qu'il ne faut pas revenir sur cette interprétation. J'ai vu Dominique Charpin, par exemple, a été très séduit par Bob Moran, et ses interprétations, et il est revenu sur la façon qu'il avait lui-même de comprendre ça comme une lettre. Vous allez voir qu'en réalité, il y a tout un genre littéraire qui est extrêmement bien connu, qui sont des échanges de lettres entre la divinité et l'individu. Ça nous paraît absolument invraisemblable de nos jours, mais nous avons les textes dans lesquels on écrit au dieu et où le dieu répond. Mais vous avez tous l'expérience de ces endroits où vous avez des gens qui écrivent sur un petit bout de papier quelque chose, qui les glissent dans un endroit pour envoyer un message à la divinité. Et vous les avez dans plusieurs sortes de religions. Et si vous avez la discrétion de tirer un bout de papier pour lire ce qu'il y a écrit dessus, ce que j'avoue avoir fait moi-même au Sainte-Marie de la Mer, bon, c'est un... Écoutez, un historien s'informe. Hein, bon. J'ai pu voir qu'effectivement, c'était des demandes très concrètes. Très concrètes. Bon. Alors, la seule différence, c'est que Sainte Sarah ne répond pas. Mais elle peut exaucer, ce qui est encore mieux. Parce que c'est plus agréable de faire une demande à la divinité qui vous l'exauce que d'avoir une lettre qui vous arrive un jour dans laquelle la divinité dit « je vous ai », etc. Bon, on écrit encore au Père Noël, n'est-ce pas ? Bon, tout ça, il faut comprendre que c'est une attitude qui remonte, mais alors, avant le XVIIIe siècle, avant le Christ, nous n'avons pas les textes. Mais c'est quelque chose qui est fondamental, ce besoin que l'on a de personnaliser la divinité, le fait qu'on lui parle, qu'on lui adresse des prières personnalisées, avec des demandes extrêmement précises. Eh bien, il y a des civilisations dans lesquelles la divinité répond. Et ici, vous avez une lettre de Kititum. Bon, vous avez beaucoup, beaucoup d'exemples de ce genre. Alors, ce que je vais regarder avec vous, eh bien, c'est un des exemples les plus magnifiques qui représente une lettre qui a été envoyée au roi Zimrilim. Une lettre qui a été envoyée au roi Zimrilim. Alors, Voici la première. Je vous en ai mis la photo pour que vous voyez. Naturellement, c'est cassé là où il ne faut pas. Hein, c'est là que les passages importants se trouvent. Hein, je vous signale. Vous pourrez le deviner par vous-même, mais je vous le confirme. C'est là qui est bon. Et naturellement, vous avez l'éditeur devant vous de la lettre, et naturellement, je regarde avec amusement ou agacement, selon les moments, les propositions différentes qui ont été faites par les gens qui ont repris ce texte, parce que c'est un des textes les plus intéressants qui soit. Bon. En tant qu'épigraphiste, je vais vous dire que voici une tablette qui n'est vraiment pas à l'honneur de celui qui l'a écrite. Hein, c'est une lettre du dieu Shamash, dieu de la lumière, c'est une tablette abominable. Regardez comment elle est faite. Hein, c'est un pâton qui a été fait. Alors là, vous avez la face, là, vous avez le côté. Là, je pense qu'il n'y a rien d'écrit. Regardez le revers, comment il se présente. Bon, c'est une grosse écriture désagréable à lire, archaïque. Je vois que, par votre amusement, que vous n'êtes pas prêt à devenir des épigraphistes. C'est une expérience épouvantable d'arriver à éditer ce texte. Hein, bon. Parce qu'en même temps, c'est un texte. Regardez ces gros signes comme ça. Ce n'est pas du tout l'écriture élégante de Marie. Et ce n'est pas du tout comme ça qu'on fait une vraie tablette. Bon. Alors, c'est une tablette qui vient du Sinjar. Vous me direz, c'est un pays barbare. Ils ne savaient pas très bien comment écrire. Bon, je suis tout à fait prêt à accepter toutes ces choses, si vous voulez, etc. Alors, qu'est-ce que c'est que cette lettre? Eh bien, c'est une lettre qui est adressée à Zimrilim. Heureusement, vous voyez, là, ça a été cassé ici. Ça a été reconstruit avec plusieurs morceaux. Le nom du roi Zimrilim apparaît ici clairement. On ne peut pas le mettre en doute. C'est une lettre adressée au roi Zimrilim. Ensuite, il y a, voici comment parle le répondant de Shamash. Et là commence, ainsi parle Shamash. Et c'est une lettre dans laquelle le dieu Shamash s'adresse à Zimrilim. Vous allez voir tout ce qu'il raconte. Alors, cette lettre, heureusement, nous en connaissons parfaitement la situation historique. Parce que, dans un texte qui est ARM 26-414, le général Yassim El écrit, qui est à la tête des troupes de Marie, dans le Sinjar, à un moment extrêmement troublé, écrit à Zimrilim. Et regardez bien, c'est très important pour les prophéties. Il commence par dire d'abord qu'il a reçu des informations qui lui ont été transmises par le représentant Mariotte à Katara, à Andaric. Vous allez voir, je vous montrerai une carte tout à l'heure. Katara est une ville importante à côté d'Andaric, où se trouvent les troupes de Marie sous le commandement de Yassimel. Premièrement, des informations politiques et militaires qui sont transmises par le représentant Mariotte. Deuxièmement, on va parler des nouvelles concernant les exactions des gens des Kalatoum qui sont en train de mettre le pays à feu et à sang. Ensuite, troisième message, très important, on a fabriqué une stèle sous forme de béthyl dans le Sinjar qu'on a expédié à Marie. Bon. C'est une lettre tout à fait normale de quelqu'un qui est là-bas, à qui on a demandé des nouvelles politiques, économiques, et puis en même temps d'envoyer du béthyl, un béthyl, puisqu'il se trouve dans une région de montagne. Et à la fin de la lettre, non pas en premier, on commence toujours par les choses importantes dans cette lettre de Marie, à la fin, on met « et à propos, je te signale telle chose ». Tout à fait à la fin, on vous dit « Atamroum », et heureusement, nous savons le nom de la personne, « Atamroum, l'apiloum de Shamash est venu à moi et m'a dit » et on va avoir à ce moment-là l'annonce de la lettre que je vous ai, de trognon que je vous ai montré ensuite, n'est-ce pas ? Expédie-moi un scribe officiel. Un scribe officiel, ça peut se traduire Maru Bitupi, un fils de la maison de la tablette. Hein ? Très compétent ou discret. Là encore, il y a une incertitude sur le passage le plus important. Que je lui fasse écrire le message que Shamash a envoyé par mon entremise pour le roi. Voilà ce qu'il m'a dit. Donc, l'Apilum de Shamash n'écrit pas lui-même. Il demande qu'on lui envoie un scribe pour écrire le message que Shamash veut transmettre par son intermédiaire. Et regardez bien, envoyé par mon entremise, non pas qu'il m'a envoyé, que Shamash m'a envoyé. Ce n'est pas l'Apilum a reçu un message dans la nuit ou dans un rêve, n'est-ce pas ? On ne sait, on ne sait pas. Peut-être c'est possible, mais on ne sait pas. Par Shamash, mais il a quelque chose à transmettre par son intermédiaire qui vient de Shamash. On ne sait pas comment Shamash lui a transmis. Voilà ce qu'il m'a dit. Alors, j'ai, naturellement, c'est le général Yassimel, expédié Utukam. Alors, Utukam, c'est un nom sumérien, ce qui est normal pour un nom de scribe. Ça veut dire, donc, que c'est un scribe lettré qui a fait cette horreur de tout à l'heure, n'est-ce pas ? C'est un scribe lettré, et il porte donc un nom sumérien, c'est-à-dire un nom chic. Et pour la petite histoire, celui qui va noter les paroles de Shamash s'appelle en sumérien, il appartient au dieu soleil. Ça, on ne sait pas si c'est une malice de Clio ou bien si c'est un épiphénomène, je ne sais pas. Et il a écrit cette tablette que j'envoie. Cet homme, c'est-à-dire naturellement l'Apilum de Shamash, avait fait se tenir des témoins pour lui. Voici ce qu'il m'a dit, fais porter cette tablette rapidement et selon les termes de la tablette, qu'il agisse. Il, c'est le roi qui n'est pas nommé. Bon. Voilà ce qu'il m'a dit, maintenant je fais porter cette tablette chez mon seigneur. Alors, vous voyez les informations ici, l'Apilum n'écrit pas lui-même, il fait écrire quelqu'un, il a besoin d'un scribe. Donc ça pose le problème des rapports naturellement fondamentaux entre la prophétie et le texte écrit. Et cet homme avait fait se tenir des témoins pour lui, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait que dicter, il n'a pas fait que dicter le message du Dieu, il a fait se tenir des témoins pour être sûr que le scribe ne va pas noter n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il va y avoir des témoins de ce qui a été dit oralement par rapport auquel on pourra examiner la validité du texte écrit. C'est-à-dire que si jamais on met en doute ce qui a été, c'est le roi de Marie met en doute ce qu'il va lire sur une tablette, parce que lui, le roi, sait lire, eh bien, on pourra toujours se référer aux témoins qui pourront vous dire ce qui a réellement été dit. Et ça, la mémoire orale, à ce moment-là, est absolument phénoménale. Quelqu'un qui assiste à la lecture d'une lettre envoyée par un roi étranger chez un autre roi est capable de la retranscrire et d'écrire à son maître. Donc, ces gens exercent vraiment leur mémoire et prétendent transmettre verbatim ce qu'ils ont entendu. Alors, naturellement, on va essayer de comprendre naturellement quelle est la situation. On va peut-être voir autre chose avant. Tout de suite, cela est mis en parallèle avec le texte de Jérémie bien connu de 36,4. Alors, je vous le rappelle, s'il en est besoin, il advint que cette parole fut adressée à Jérémie de la part de Yahvé pour dire « Procure-toi un rouleau de livres et tu écriras dessus toutes les paroles que je t'ai dites sur Israël, sur Juda et sur toutes les nations. » Vous allez voir que le message est un message hautement politique et qui concerne à peu près tout le Proche-Orient. Hein. Bon. Depuis le jour où je t'ai parlé, depuis les jours de Josias, tu es ce jour. Alors, Jérémie ne prend pas le rouleau, mais il appelle Baruch, fils de Neria, et Baruch écrivit de la bouche de Jérémie sur un rouleau de livres, toutes les paroles que Yahvé avait dites. Vous voyez le parallèle qu'il peut y avoir entre le couple Jérémie-Baruch, Baruch comme vous voulez, hein, et l'Apilum et Utukam. Bon, alors, on dira, c'est la preuve que le prophète est un illettré, qui est le truchement de Dieu qui s'exprime par sa bouche, et s'il faut l'écrire, eh bien, à ce moment-là, on s'adresse à quelqu'un qui est capable d'écrire. dès que j'ai publié le texte, naturellement, les biblistes se sont lancés toute allure là-dessus en disant « Atamrum lapilum de Shamash, c'est l'équivalent de Jérémie. Bon. » Je n'en crois pas un mot. Je n'en crois pas un mot. Parce que regardez la suite. Il est important de ne pas comparer phrase à phrase, mais texte à texte. Puis Jérémie donna ordre à Baruch en disant « Je suis empêché, je ne puis entrer dans la maison de Yahvé, tu y entreras toi, et dans le rouleau que tu as écrit de ma bouche, tu liras les paroles de Yahvé. » Le problème est-ce que Jérémie fait écrire la prophétie par Baruch parce qu'il ne sait pas écrire, ou est-ce qu'il ne respecte pas en réalité un interdit dont il est victime à ce moment-là, et qui fait qu'il ne peut pas écrire lui-même le texte, puisque de toute façon, il va demander à quelqu'un d'autre de le lire. Et je pense que cette interprétation est la bonne, parce que si vous regardez le restant dans Jérémie 23:13, Jérémie vous dit « J'écrivis un acte, je fis témoigner des témoins, et je pesais l'argent dans une balance, je donnais l'acte d'achat à Baruch, fils de Neria. » Alors, on tire argument de cela en disant que Baruch est le secrétaire, en quelque sorte, de Jérémie. Seulement, à partir du moment où vous avez un texte qui vous prouve que Jérémie peut écrire lui-même un texte, pourquoi ne peut-il pas écrire le reste? Parce que s'il est capable d'écrire un texte de vente, il est capable d'écrire un texte de vente est déjà un texte littéraire par lui-même, n'est-ce pas? Donc, je pense que, si on revient là-dessus, le plus important, c'est ça. Je suis empêché. Donc, ça ne prouve pas du tout que le prophète, à l'époque de Jérémie, est un illettré qui ne peut pas écrire et qui est simplement le truchement de la divinité. En réalité, c'est parce qu'il y a une période particulière dans laquelle il a un rapport avec la parole de Dieu qui fait que ni il ne peut l'écrire, ni il peut la lire. Et le plus important pour moi, c'est « tu liras les paroles de Yahvé », c'est-à-dire il commet quelqu'un à sa place parce qu'il n'est pas dans la période où il peut faire tout cela. Et ça, on le connaît, on sait par la Mésopotamie qu'il y a des moments qu'on appelle des moments tabous dans lesquels les actions sont impossibles. Et je pense que là, la comparaison entre le prophète de l'époque amorite et le prophète de l'époque hébraïque est un rapprochement qui est un pur, purement épiphénoménal. Ça ne va pas au-delà que... Ce n'est bon que si on ne prend qu'une partie du texte. Mais si vous prenez tout le texte, ça ne marche pas. Alors, c'est pour cela que le grand problème que nous avons ici, c'est que quand il demande un scribe de la maison des tablettes, à mon avis, c'est ça qui est important pour le texte de l'époque amorite. En quelle langue parle l'apilum? L'apilum parle dans la langue locale. Il parle dans sa langue locale, qui est un dialecte sémitique certainement, mais qui est quelque chose qui ne se prête pas à l'écrit. Et il a besoin d'un scribe de la maison des tablettes parce qu'il veut que son discours oral, pour être transmis au roi de Marie, soit d'abord traduit en acadien. C'est ça qui est important. Toute langue n'est pas écrite. Ce n'est pas parce qu'on parle un dialecte que ce dialecte peut donner une expression écrite. C'est une vision moderne. Et pour écrire au roi de Marie, il faut passer par le biais du cunéiforme. Et le biais du cunéiforme, ça veut dire l'acadien. Et nous allons avoir à ce moment-là la lettre qui a été écrite et qui est une lettre qui n'est pas extraordinairement belle. Et c'est pour ça que se pose le problème de savoir que signifie le terme de scribe Natsrum que l'on demande. Alors, le terme de Natsrum En acadien, ça signifie garder, protéger, ou bien secret. Vous avez le choix entre toutes ces expressions-là. Mais un scribe secret, qu'est-ce que ça signifie ? Je vois avec agacement que les gens qui reprennent ce texte choisissent le terme de secret. Parce que la parole doit être protégée. Et ça ne me paraît pas très bon. Parce qu'en général, quand on fait une prophétie, c'est pour qu'elle soit publique. Et on essaye, la plupart du temps, l'État essaye d'empêcher que la prophétie soit publique. Il essaye de la garder pour lui. La puissance étatique essaye de réserver le savoir pour lui, pour sa propre information. Mais le prophète lui-même, ce qu'il veut, c'est que sa parole soit le plus connue possible. Et ça ne me paraît pas très bon. Ça ne me paraît pas très très bon. Comme interprétation, et surtout la tablette va être envoyée au roi. On lui dit au roi qu'il faut agir comme ça. Pourquoi voulez-vous que ça reste secret ? On dirait que c'est comme le message de Fatima, si vous voulez. Bon, si c'est un secret, eh bien les gens le gardent par-devers eux et ne le disent pas. On a attendu 50 ans, je ne sais pas combien de décades, que le troisième secret de Fatima soit connu. Bon. Mais là, on veut que le roi agisse en fonction de ce qu'on lui écrit. Et le problème, c'est que ce sont les paroles mêmes de la Piloum. Et est-ce que la Piloum emploie exactement l'acadien tel qu'on le parlait à Babylone ? Réponse certainement pas. Et c'est pour ça que je pense qu'en réalité, on n'a pas le Natsroum acadien, mais qu'on a l'expression locale de Natsroum qui signifie qui conserve. Et c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un participe passé passif comme Natsroum, on a un participe actif amorite qui veut dire quelqu'un qui observe, quelqu'un qui garde fidèlement. Et si vous avez l'idée que la Piloum ne parle pas acadien, mais qu'il parle sa langue locale, et qu'il a besoin que ce soit traduit, il faut que la traduction ne soit pas une trahison. Et c'est pour ça qu'il met des gens alentour du scribe. Il veut que la parole soit gardée dans son intégralité, ce qui est très menacé à partir du moment où elle va être détruite. Quand Jérémie parle, on a en quelle langue parle-t-il ? Ben, certainement en hébreu. Il n'y a pas de raison. Alors, il y a des gens qui vous disent qu'il parle araméen. Bon, pourquoi pas ? Mais il vaut mieux admettre que les prophéties ont été faites en hébreu et notées en hébreu tout de suite. Pour la Piloum de Shamash, on peut penser exactement le contraire. Alors, c'est pour ça que je pense que il demande quelqu'un qui puisse garder le sens précis des termes et ne pas les truquer. Et effectivement, quand on traduit, eh bien on peut traduire largement ou librement. Et en réalité, il a traduit d'une façon un petit peu encore pas assez claire pour nous. Alors, quelle est la situation politique de cette lettre ? Eh bien, nous savons très bien ce qui se passe. Toutes les troupes de Marie sont ici à Andarig. Sont remontés là. Et c'est tout à fait la fin du règne de Zimri-Lim. C'est une période extraordinairement troublée. C'est normal qu'il y ait des prophéties, on dit que c'est un moment très troublé. C'est le moment où le roi des Kalatoum, qui est le fils du grand Samsiadou, est remonté de Babylone. On avait vu la prophétie qui voulait l'empêcher de remonter de Babylone. Il est remonté de Babylone, il s'est installé là et il essaie de reconstituer son royaume. Et il fait des actions militaires de part et d'autre contre toutes les centres politiques. Voilà Katara, voilà Andarik, voilà Kourda, n'est-ce pas ? Voilà Achour. Il essaye de refaire le royaume qui lui avait été laissé par son père. Et tout alentour, les alliances se nouent et se dénouent. Ça devient quelque chose d'absolument abominable à reconstituer parce que les lettres nous parlent toujours de l'événement du jour. Il faut les remettre dans leur chronologie. vaille que vaille en est arrivé, on se rend compte que tous les chefs passent d'un clan à un autre. Et on ne sait pas exactement, on ne peut pas très bien suivre les événements parce que quelquefois ils sont contradictoires, on voit que d'un mois à l'autre, les gens basculent d'un clan dans un autre. Ce qui est important, c'est que dans cette région du Sinjar, qui est une région absolument centrale, Babylone, Marie et Alep interviennent et essayent d'asseoir leur puissance politique. Marie veut garder sa prééminence dans cette région et s'appuie surtout sur la ville d'Andarig. Babylone envoie des milliers d'hommes qui s'appuient plutôt sur Kourda et qui s'installent tout ici. Et tout cela est en train de devenir une sorte de condominium Marie-Babylone, dans lequel Marie va l'emporter. Et à l'heure actuelle, nous avons bonne raison de penser que ce sont les armées de Babylone qui sont dans le sud du Sinjar qui un jour vont faire un raid sur Marie, vont la prendre et vont la détruire. Et ça va se passer un an après cette lettre. Bon. Voilà à peu près quelle est la situation. C'est une situation très embrouillée. Kourda et Andarig sont deux villes qui sont extrêmement voisines, à une journée de marche l'une de l'autre, qui sont des villes politiques extrêmement importantes et qui ne peuvent absolument pas s'entendre. Salah et Ben Simalit, Salah et Benjaminite et ils sont deux frères, mais qui s'entendent très mal et qui passent leur temps à se faire la guerre. Voilà quelle est la situation. Et c'est Shamash d'Andarig qui écrit au roi de Bari pour lui donner son point de vue. Voilà à peu près quelle est donc la situation. Vous voyez comment j'ai essayé de vous résumer ça. Netzroum, est-ce un participe passé passif à l'acadien discret ? Ou bien est-ce un participe actif qui observe fidèlement ? En réalité, ce qu'il faut, alors vous me pardonnerez cette irrévérence, il faut garder ce qu'on appelle les ipsissima verba de la divinité, c'est-à-dire les paroles mêmes de la divinité, celles qui ont été prononcées, mais quoi qu'elles changent, elles changent de le système linguistique. Alors, voici maintenant cette lettre. « Diazim rilim » Ainsi parle la piloum de Shamash. Et immédiatement après, vous avez ce qu'on a déjà vu pour la piloum de Marduk, il y a identification du discours du répondant de la piloum avec le discours de la divinité. Dieu parle, on ne dit pas « Dieu a dit que », mais « moi, le Dieu, je dis que ». N'est-ce pas ? Et on s'adresse tout de suite à la première personne. Tout le grand argument de la lettre, il y a un axiome latin qui le résume bien, c'est « do ut des », « je donne pour que tu donnes ». C'est-à-dire que le don gratuit n'existe pas. Il existera ailleurs, mais vous verrez dans quelle région, du côté de l'ouest complètement. Où il y a un dieu qui veut faire enrager un autre dieu, alors il dit « lui demande, mais moi je ne demande pas ». Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, voici ce que le premier message. Je suis un grand trône. Alors, il commence par dire, j'ai dû vous passer le passage. Oui, je suis Shamash, je suis celui du pays. C'est-à-dire, je suis le Shamash d'Andarik qui te parle. Il va commencer par se présenter lui-même. Bon. La bonne traduction n'est pas celle du texte « Je suis le maître du pays ». Le maître du pays est une traduction à contresens. Bel Matim, ça signifie non pas celui qui possède le pays, mais celui dans lequel le pays se reconnaît. Il faut le comprendre d'une façon tout à fait différente. C'est une sorte de... le terme de Belum, qui signifie maître, fonctionne comme une sorte de démonstratif emphétique. Je suis celui qui appartient vraiment à Andarig. Et on en est sûr, parce que la lettre vient d'Andarig. Alors, il va demander au roi, après la grande victoire qu'il vient de remporter sur ses ennemis, c'est une victoire momentanée, mais ça, il ne le sait pas encore, il va lui indiquer comment il doit montrer sa reconnaissance envers les divinités qui ont présidé à sa victoire. Et c'est ça qui est extrêmement important, et ce sera une très grande différence avec le dieu d'Israël, c'est que le dieu Shamash dans Darig va parler pour d'autres dieux. Il ne va pas parler pour lui. Vous verrez qu'à la fin, il parle pour lui, mais pour l'instant, il ne parle pas pour lui. Un grand trône à la demeure de la plénitude, ainsi que ta fille que je t'ai réclamée, qu'on apporte rapidement à Sippar, la ville de vie. Ce n'est pas dans l'acadien très clair. Bon, je le traduis en mot à mot. Voici que les rois qui s'étaient tenus contre toi et qui t'avaient sans cesse agressé se sont soumis à ta main. Voici que la lance t'a été donnée dans le pays. La traduction est différente de celle que j'ai donnée quand j'ai édité le texte pour la première fois. Voici que la lance t'a été donnée. Alors, ce qui est très clair ici, c'est les opposants au roi de Marie ont perdu la bataille. Ils se sont soumis à ta main. Et il y a une façon symbolique de le dire, voici que la lance t'a été donnée dans le pays. La lance est le symbole, le texte maintenant est enfin compris, ce n'est pas ce qui avait été mis dans la première édition. La lance, on sait maintenant que c'est le symbole de la victoire, celui qui a triomphé prend une lance, la rentre dans le pays et c'est la marque de propriété du pays. La lance t'a été donnée dans le pays, c'est-à-dire que désormais tu en es le propriétaire, tu es celui qui domine tout le monde. Vous voyez ce que Shamash fait ? Il demande qu'on apporte un trône et une prêtresse à Sippar. Sippar se trouve dans le pays de Babylone. Et à Sippar, le grand dieu est toujours le dieu Shamash. Mais le dieu Shamash d'Andaric demande que l'on récompense le dieu Shamash de Sippar. C'est comme si vous aviez, mais on ne peut pas avoir l'équivalent en Israël où le dieu de Jérusalem demanderait qu'on donne quelque chose au dieu de Samarie, si vous voulez. C'est pas possible de faire des comparaisons de ce genre parce qu'on est à un moment donné de monothéisme par rapport à un moment donné de polythéisme. Bon. Et il a l'air de vous dire que le dieu de Sippar, il doit être récompensé comme et non pas le dieu Shamash d'Andaric. En réalité, il faut comprendre que ça veut dire qu'il faut récompenser les gens de Babylone qui ont aidé à triompher de Ekalatoum, qui était en guerre contre le roi de Marie. Et on va le récompenser par un grand trône. Vous savez qu'on est à une époque où le roi de Marie ne donne pas de statue, il donne des trônes vides. Parce qu'il comprend la divinité d'une façon tout à fait différente du pays d'Akkad. Et en même temps, il lui demande une fille. Et cette fille, la fille que j'ai demandé, Erishuka, dit-il, avec le verbe Erishum, on la connaît. Effectivement, le roi de Marie a envoyé une de ses filles, et cette fille s'appelle Erishti Aya. Donc elle porte exactement le nom. Désir, demande de Aya. Aya est l'épouse de Shamash. Une femme, on ne va pas dire Erishti Shamash, on dit toujours Erishti Aya. C'est une façon de parler à l'époque. Bon. La princesse de Marie va porter un nom qui rappelle la demande expresse qui a été faite par Shamash d'elle. Elle est devenue à ce moment-là une prêtresse qu'on appelle une Aditum à Sippar. Et il est normal qu'à ce moment-là, le dieu Shamash d'Andaric récompense le dieu Shamash de Babylone et non pas Marduk de Babylone, puisqu'on reste dans le domaine de Shamash. Alors, la demeure de plénitude est la ville de vie. La ville de vie signifie Sippar, ça signifie la ville où je vis moi-même, dieu Shamash, par rapport à Andaric où je suis. Donc on a l'impression quand même qu'il a l'idée que les différents dieux soleil des différentes villes sont une seule et même divinité. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement frappant dans un domaine de polythéisme. La demeure de plénitude est une façon de désigner le temple dans lequel la déesse va être, la prêtresse va être vouée. Deuxième demande. En outre, en ce qui concerne la part réservée d'Adou, alors, qu'il y a un Shamash de six parts récompensé parce que Shamash d'Andarig a été gentil avec lui, ça se comprend très bien. Mais regardez la deuxième demande. En outre, en ce qui concerne la part réservée d'Adou, il t'avait envoyé avant la victoire Kanisanoum. On ne sait pas qui est ce Kanisanoum, mais c'est certainement quelqu'un d'Alep qui avait dû venir demander en échange de l'aide apportée par Alep que le dieu Adou, qui est le grand dieu d'Alep, ait quelque chose. Manifestement, le roi de Marie n'avait pas accédé à ce désir. Le roi, le dieu d'Andarik lui dit, rassemble toute sa part réservée et qu'on la porte à Alep au temple d'Adou. Voilà, ça c'est quelque chose alors, qui dépasse un petit peu l'entendement parce qu'on ne voit pas très bien pourquoi le dieu Shamash s'intéresse tellement à Alep, si ce n'est que l'on reconnaît l'aide militaire qu'Alep a pu apporter au roi de Marie à ces occasions. Et ensuite, il y a cette chose énigmatique, ce que Kishti Dagan Lapilum t'a demandé, donne-le, pour qu'il, c'est-à-dire Adou d'Alep, fasse aller à toi en échange. Alors, deux termes qui signifient la vie, Balatum ou Napishtum, et la traduction en français est extrêmement compliquée parce que nous n'avons pas les deux termes qui conviennent. J'ai traduit vaille que vaille, la vie du corps et celle de l'âme, parce que balatum, ça signifie la vie corporelle qui fait que le corps continue à fonctionner, et le napishtum, c'est le nefesh, c'est-à-dire la respiration, la vie en tant que le souffle qui passe par la bouche. Alors, si je dois translater ça dans notre civilisation, je vous dirais il y a un corps et il y a une âme. Il y a pas, je ne vois pas trop comment le dire autrement. Et il faut lui donner sa part réservée sur le butin, la sakoum. Et ça, c'est une notion extrêmement archaïque et très intéressante parce que c'est quelque chose qui se retrouvera dans les niveaux les plus anciens de souvenirs bibliques. Je vous ai mis le passage de Josué 7. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérar, de la tribu de Juda, prit de l'anathème. Il a pris alors le Kherem, parce qu'on se trouve dans une autre langue, et la colère de Yahvé s'enflamma contre les fils d'Israël. C'est quelque chose que, dans le butin, il y a une part pour la divinité qui est parallèle à la part du roi, et ensuite, la part qui est donnée à l'armée. Il y a trois parts qui sont faites pour la divinité, pour le dieu et pour les hommes, qui ont combattu. Et, dans Josué, le Rerem veut que tout soit donné à Yahvé, en quelque sorte. Bon, ça, c'est une chose de réécriture biblique sur laquelle je ne vais pas rentrer. Mais vous voyez, ce qui est dit par le dieu, rassemble et qu'on apporte, on a tout à fait l'impression que le butin-là concerne uniquement des gens et des troupeaux, et non pas simplement des biens, parce qu'on ne dirait pas « rassemble » si c'était uniquement des biens physiques. Autre chose, un troisième qui arrive, « Nergal de Rupshalom s'est tenu à ton côté et aux côtés de ton armée lors de la victoire. » Voilà, on reverra la prochaine fois ce que signifie Rupshalom. « Tout ce que tu avais voué, ainsi qu'une grande épée en bronze, fais-les faire et qu'on l'apporte à Nergal de Rupshalom. Personne ne sait où se trouve la ville de Rupshalom, mais dans le commerce des antiquités, on a trouvé une magnifique épée, justement vouée à Nergal de Rupshalom. Et c'est un Nergal est le dieu des enfers, et on lui vouait des épées en conséquence de certains vœux. Et en voici un exemple qui a été retrouvé. C'est une épée absolument magnifique. Voilà le manche. Bon, je ne sais pas si c'est très utile pour se battre, mais en tout cas, ça fait bien quand c'est mis dans un temple. Et comment on sait qu'elle appartient à Nergal de Rupshalom ? Eh bien, c'est parce que dans une écriture extrêmement étrange, on a une inscription qui court sur toute la lame et qui vous dit que ça a été voué pour la vie de un tel au dieu Nergal de Rupchalum. Donc voilà certainement l'équivalent de ce que le dieu Dandarik demandait à Rupchalum. On est sûr que c'est quelque chose qui est concret, qui est vrai, ce ne sont pas des paroles en l'air. Bon. Et si l'on regarde déjà ces trois demandes qui sont faites par le dieu Dandarig, on sait que la prêtresse qu'il a demandée a été réellement envoyée à Sippar, et l'épée, alors ça on ne sait pas si l'épée a été donnée, mais on a l'exemple qu'en tout cas, c'est la coutume de vouer des épées à cette divinité. Là où le discours devient plus politique, encore autre chose, poursuit la divinité, voici ce que dit Shamash. Hammurabi, le roi de Kurda, c'est-à-dire l'abominable voisin qui passe son temps à empoisonner les gens d'Andarig. Le roi de Kurda t'a raconté des mensonges. Sa main se trouve placée là où il ne faut pas. Ta main s'emparera de lui. Alors tu donneras libre cours à l'Andorarum, je vous expliquerai ce que c'est que l'Andorarum, à l'intérieur de son pays. Alors voilà que tout le pays se trouvera donné à ton pouvoir. Lorsque tu auras pris la ville et que tu auras laissé libre cours à l'Andorarum, l'Andorarum, c'est le fait de la rémission des dettes. C'est-à-dire que le roi de Marie va devenir roi de Kurda. Parce que l'Andorarum, c'est ce qu'un roi amorite fait lorsqu'il prend le pouvoir. Donc, lui dire « tu laisseras libre cours à l'Andorarum, à l'intérieur de son pays », ça veut dire « tu vas être sacré roi de Kurda ». Alors, voilà que tout le pays se trouvera donné à ton pouvoir. Lorsque tu auras pris la ville et que tu laisseras libre cours à l'Andorarum, de la sorte, ta royauté sera éternelle. Donc, on voit qu'au début, le dieu Dandarik commence par demander des choses pour son confrère ou son hypostase de Sippar, ensuite pour Adad d'Alep, ensuite pour Nergal de Rupchalum, et puis, à la fin, il montre un petit peu le bout de l'oreille. Il demande qu'on débarrasse Andarig définitivement de Kurda. Bon. Et puis, ça va encore plus loin, parce qu'il se trouve qu'à Andarig, en ce moment-là, le roi local vient de mourir et que le premier ministre est en train d'essayer de prendre la place. Le vizir est en train de devenir calife, si vous voulez. Bon. Et il dit, en outre, Zimrilim, qui est un juge, alors un chapitoum, ça ressemble tout à fait au chauffet, mais ce n'est pas comme ça qu'on parle du roi de Marie. Un chapitoum dans le royaume de Marie, c'est un gouverneur. Bon. Et il faut lui donner son sens de juge. Zimrilim, qui est un juge qui se conforme aux volontés de Shamash et de Hadou, heureusement que Michael Guichard est allé relire le texte et nous a aidés à ce point pour ce passage, doit écouter cette tablette et envoyer ma décision chez Rimdia, c'est-à-dire il doit aider à ce que Rimdia devienne le roi d'Andarig. Et c'est là que vous voyez absolument la collusion entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique. On commence par demander des ex-voto pour les confrères divins. On demande ensuite d'être débarrassé du voisin qui fait la guerre à outrance. On termine, et là, ça devient patent, en demandant que celui qui essaye de devenir roi d'Andarig soit réellement roi d'Andarig. Voilà à peu près comment se présente cette lettre absolument remarquable de l'Apiloum de Shamash. Et vous voyez que nous sommes alors là en plein dans les rapports entre le politique et le religieux, et tout particulièrement dans ces problèmes si compliqués de rapport entre l'écrit et l'oral. Je vais essayer de vous montrer cela, et je reprendrai ça la semaine prochaine, mais pour l'instant, si vous le permettez, on va libérer la salle pour d'autres festivités.